en rediffusion sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 19 octobre 2021. Jean-Roger Pion à ce micro, bonsoir à tous. À la une de nos informations, au Mali, les autorités de transition ont demandé à des dignitaires musulmans de négocier avec les groupes djihadistes maliens. En Afrique, d'après l'ONU, plus de 100 millions de personnes sont menacées par l'accélération du réchauffement climatique. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est en tournée sur le continent. Après l'Angola, il se rend au Togo, puis au Nigeria. New York va déboulonner la statue de Thomas Jefferson de la salle du conseil municipal. Le troisième président des États-Unis est rattrapé par son passé esclavagiste. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Va-t-on vers un dialogue formel entre le gouvernement malien et les djihadistes? Bamako a en tout cas annoncé ce mardi avoir mandaté la principale institution religieuse musulmane du pays pour qu'elle négocie avec Yad Agali et Amadou Koufa, les principaux leaders du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Abdourahman Dia.
Le ministère malien des Affaires religieuses a indiqué que le Haut Conseil islamique malien allait ouvrir des négociations avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui opère essentiellement dans le centre malien. Le responsable du Haut Conseil islamique, Mohamed Kimbiria, a confirmé cette information. Il précise que son institution avait pour mandat de discuter avec les djihadistes locaux, mais pas avec les étrangers. Le Haut Conseil islamique avait négocié en mars dernier une trêve entre les djihadistes et les groupes d'autodéfense dans le cercle de Niono, dans le centre du Mali, mais les violences ont repris en juillet. Les autorités maliennes ont laissé entendre à plusieurs reprises par le passé qu'elles étaient ouvertes à de telles négociations. Elles ont discrètement soutenu des pourparlers menés au niveau local malgré l'opposition de la France. Le président Emmanuel Macron a affirmé en juin dernier que l'armée française ne mènerait pas d'opération conjointe avec les forces de pays qui négocient avec les groupes terroristes. Les relations entre Bamako et Paris sont tendues depuis l'annonce du redéploiement de la force Barkhane et le rapprochement présumé entre la junte malienne et Wagner, le groupe privé paramilitaire russe.
Nous reviendrons sur ces négociations avec les djihadistes maliens dans la partie magazine de cette édition. La marine sénégalaise a saisi plus de 2 tonnes de cocaïne à bord d'un navire intercepté au large de Dakar, a annoncé mardi l'armée dans un communiqué. Le navire dénommé La Rosa et impliqué dans un trafic international de drogue a été intercepté dimanche à 363 km au large de la capitale sénégalaise, précise la direction des relations publiques des armées dans un communiqué. Sans plus de précision, la marine sénégalaise avait déjà saisi en octobre 2019 au large de Dakar plus d'une tonne de cocaïne en provenance présumée d'Amérique latine et à destination de l'Espagne. L'ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Karega, a déclaré que les forces de son pays n'avaient pas l'intention de pénétrer en RDC, mais par erreur, 2 des leurs sont entrés dans la zone de Kabumba, dans le district de Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu. Hier, nos soldats sont entrés en RDC, mais ce n'était pas intentionnel, et des soldats des FARDC les ont arrêtés, et c'est alors que des tirs de semonce ont été faits pour disperser les gens, mais personne n'a été blessé. Nous respectons les frontières de chaque pays, a déclaré l'ambassadeur. Il a aussi affirmé que les soldats rwandais sont de retour au Rwanda et que les forces des FARDC demeurent en RDC. Il n'y a aucun différend entre les deux pays. Au Soudan, de nouvelles vagues de protestataires ont rejoint aujourd'hui un sit-in pour réclamer une prise en main du pays par les militaires, se disant déterminés à rester jusqu'à la chute d'un gouvernement civil englué dans le marasme politique et économique. L'annonce de ce sit-in illimité fait craindre des tensions car les partisans d'un transfert complet du pouvoir au civil ont eux aussi prévu de se mobiliser. Jeudi, ils appellent à une manifestation 1 million de personnes à Khartoum et ailleurs au Soudan. Éthiopie, 3 enfants ont été tués et plusieurs personnes blessées lors des frappes aériennes menées lundi par l'armée éthiopienne sur Mekele, la capitale du Tigré, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Ces frappes sont les premières connues sur la ville de Mekele depuis le début du conflit dans la région du Tigré il y a presque un an. Le gouvernement éthiopien avait, dans un premier temps, qualifié cette information de mensonge total, mais un média d'État a ensuite confirmé que des frappes avaient visé des cibles des rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. La Turquie entend promouvoir des relations avec les pays africains sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant dans le cadre du respect mutuel, a assuré le président Recep Tayyip Erdogan en concluant une visite en Angola, première étape d'une tournée en Afrique qui se poursuit au Togo et au Nigeria. Les précisions de John Lindon.
Nous attachons une grande importance et une grande valeur à la relation étroite que nous entretenons avec le continent africain, a affirmé hier soir le président turc devant un parterre d'hommes d'affaires angolais. Nous désirons faire progresser ces relations sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant dans le cadre du respect mutuel, a-t-il poursuivi. Devant le Parlement angolais, il a estimé que le sort de l'humanité ne peut pas et ne doit pas être laissé à la merci d'une poignée de pays qui sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Lors de son entretien avec son homologue angolais João Lourenço, le président turc a vanté l'industrie gazière turque en soulignant que celle-ci serait ravie de partager son expérience. Recep Tayyip Erdogan est attendu ce mardi au Togo, où il est prévu des échanges avec les présidents togolais, burkinabés et libériens. La prochaine étape de sa tournée africaine sera le Nigeria, le plus grand producteur de pétrole du continent.
À moins de 2 semaines de l'ouverture de la COP26 à Glasgow, les Nations Unies viennent de publier un rapport sur l'état du climat en Afrique. Plus d'une centaine de millions de personnes sont menacées par l'accélération du réchauffement climatique. Les détails avec Claire Morin-Gibou.
Ce rapport de l'ONU met en évidence la vulnérabilité disproportionnée de l'Afrique, qui s'est réchauffée l'an dernier plus rapidement que la moyenne mondiale. Il y a une hausse des températures, une accélération de la montée des océans, des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les inondations, les glissements de terrain et les sécheresses. D'ici 2030, jusqu'à 118 millions de personnes extrêmement pauvres, vivant avec moins de 2 dollars par jour, seront exposées si des mesures adéquates ne sont pas prises, prévient l'ONU, qui appelle l'Afrique à investir dans les infrastructures hydrométéorologiques et les systèmes d'alerte précoce. La mise en œuvre rapide de stratégies d'adaptation en Afrique va stimuler le développement et générer davantage d'emplois pour soutenir la reprise économique après la pandémie de Covid-19, suggèrent les Nations Unies, qui appellent à une relance durable et verte pour le continent.
Le journaliste algérien Rabah Karech du quotidien Liberté, incarcéré depuis avril, est sorti de prison mardi après avoir purgé une peine de 6 mois pour diffusion de fausses nouvelles, a annoncé son journal. M. Karech a été condamné le 11 octobre. Il a purgé la totalité de sa peine ce mardi. Il avait été condamné pour diffusion volontaire de fausses informations. Un imam marocain en détention a vu sa peine réduite en appel à 3 mois de prison ferme. L'imam Abu Ali a été condamné le mois dernier à 2 ans d'emprisonnement pour avoir violé l'état d'urgence sanitaire et appelé les imams et ses disciples à protester contre leurs conditions financières et sociales. Sa condamnation a suscité l'indignation des défenseurs des droits humains et des associations professionnelles d'imams au nom du droit à la liberté d'expression. Une campagne de solidarité a appelé à sa libération.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les législateurs de la ville de New York ont voté le retrait de la statue de Thomas Jefferson, l'un des pères fondateurs des États-Unis, de la salle du conseil municipal en raison de son passé esclavagiste. Les détails avec Rosine Mounezero.
Lundi, les responsables de la ville de New York ont voté à l'unanimité le retrait de la statue de la salle du conseil, mais ont reporté la décision sur l'endroit où la placer. La statue devrait être placée dans le musée de la Société historique de New York. Les membres latinos et noirs du conseil municipal demandaient depuis des années le retrait de la statue. Leur demande a été stimulée par les manifestations nationales pour la justice raciale qui ont suivi le meurtre de George Floyd, tué par un policier blanc à Minneapolis. Le troisième président des États-Unis incarne certains des aspects les plus honteux de l'histoire de notre pays, a déclaré la conseillère municipale Adrienne Adams lors de l'audience. Selon le New York Times, Jefferson avait plus de 600 esclaves sur sa plantation en Virginie et a eu 6 enfants avec l'une d'entre elles. En septembre, la grande statue du général confédéré Robert E. Lee a été retirée de Richmond, la ville de Virginie qui a servi de capitale au sud esclavagiste pendant la guerre de sécession.
Israël a annoncé mardi pour la première fois depuis 2009 la régularisation du statut de 4 000 Palestiniens résidant en Cisjordanie occupée, parlant d'un geste humanitaire. Cette décision fait partie de ma politique visant à renforcer l'économie et à améliorer la vie des Palestiniens en Judée-Samarie, a déclaré sur Twitter le ministre israélien de la Défense Benny Gantz, qualifiant cette décision de geste civil humanitaire. Israël occupe la Cisjordanie et Jérusalem-Est depuis 1967. 10 000 enfants ont été tués et blessés au Yémen depuis le début du conflit, a affirmé mardi un porte-parole de l'UNICEF à Genève, de retour d'une mission dans le pays. 4 enfants sur 5 au Yémen ont besoin d'aide humanitaire, soit un total de 11 millions, a aussi rappelé James Elder, porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, lors du briefing régulier de l'ONU à Genève. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec John Lydon.
La Tanzanie va investir un peu plus de 39 millions de dollars pour revitaliser son secteur touristique. Selon l'agence Ecofin, qui cite le ministre du Tourisme, ce montant provient des 567 millions de dollars mis à la disposition du pays par le Fonds monétaire international pour lutter contre les effets de la pandémie de COVID-19. D'après le FMI, en 2020, l'économie tanzanienne a chuté à 4,8% contre 7% en 2019. Au Cameroun, la production d'huile de palme devrait baisser au quatrième trimestre 2021, selon Investir au Cameroun. Cette baisse annoncée trouve son origine dans le cycle de production du palmier à huile, des procédures judiciaires contre certains opérateurs ainsi que les effets de la crise anglophone. Le Sud-Ouest, l'une des régions anglophones, abrite les plantations de palmol. Ces deux sociétés d'État sont les principaux producteurs d'huile de palme au Cameroun. La Tunisie est en discussion avec les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite pour renflouer les caisses de l'État qui subissent l'impact d'une double crise économique et politique. La croissance est en berne depuis 10 ans et une forte inflation de 6% par an, alors que la pandémie de coronavirus a privé le pays de cruciales recettes touristiques.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. La nouvelle saison NBA débute ce soir avec une alléchante course à 3 entre les Bucks de Giannis Antetokounmpo, tenant du titre, les Nets de Kevin Durant et les Lakers de LeBron James. L'ouverture de la saison régulière a un parfum de play-off avec d'abord un remake de la dernière finale de conférence Est entre Milwaukee et Brooklyn, puis un duel entre les Lakers en quête d'un 18e sacre record et les Warriors de Stephen Curry. L'apparition du vaccin contre le coronavirus permet un retour à la normale dans des salles pleines, mais la NBA compte des réfractaires au vaccin parmi les joueurs, certes très minoritaires, 4%, mais qui font valoir leur liberté de faire ce que bon leur semble pour leur santé. Le plus célèbre de ces non-vaccinés est Kyrie Irving, empêché de jouer les matchs à domicile des Nets à Brooklyn en vertu d'un décret de la ville de New York. Il a été mis à l'écart par ses dirigeants qui n'acceptent pas qu'il ne soit disponible que partiellement. 96% des joueurs du NBA sont désormais vaccinés contre le COVID-19, a déclaré hier le patron de la Ligue, Adam Silver. Football, la troisième journée de la Ligue des Champions, débute ce soir en Europe. Après sa victoire face à Manchester City 2-0, le Paris Saint-Germain doit confirmer son statut de leader du groupe A au Parc des Princes face au RB Leipzig, lanterne rouge. Liverpool affronte l'Atlético Madrid. L'autre match de ce groupe mettra aux prises le FC Porto et l'AC Milan. Dans le groupe C, les carottes semblent déjà cuites après 2 journées. On ne voit pas comment l'Ajax, en pleine forme, et le Borussia Dortmund pourraient être rejoints avant Noël par le Besiktas et le Sporting Portugal. Reste que les Néerlandais vont passer un sacré test face au Borussia. Dans la poule D, incroyable vainqueur du Real Madrid 2-1, le shérif Tiraspol va tenter un nouveau hold-up sur la pelouse de l'Inter Milan. Du côté du Real, les coéquipiers de Karim Benzema sont en déplacement en Ukraine face au Shakhtar Donetsk. L'ex-entraîneur de l'équipe nationale zambienne de football, Milutin Sredovic, 51 ans, a été condamné 2 fois 3 ans de prison avec sursis pour agression sexuelle par un tribunal sud-africain. Poursuivi pour 2 chefs d'agression sexuelle, le Serbe a été pour chacun condamné à 3 ans d'emprisonnement avec un sursis de 5 ans à condition qu'il ne commette pas d'autres infractions sexuelles, a déclaré le parquet national dans un communiqué. Sredovic a fait appel de la sentence. Les faits se sont passés en décembre lors de la Coupe Costa Fa qui a regroupé les équipes d'Afrique australe en Afrique du Sud.
Milutin Sredjovic entraîne aujourd'hui l'Ouganda.
Page de sport signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le gouvernement malien a demandé au Haut Conseil islamique de négocier avec Yad Agali et Amadou Koufa, leader de la Jamaat Nusrat al-Islam ou al-Muslimin, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une organisation djihadiste qui opère surtout dans le centre du Mali. Pour comprendre les enjeux, Modibo Dembélé a joint à Bamako Youssouf Sissoko, directeur de publication du journal Info 7.
Négocier avec les djihadistes est l'une des recommandations fortes du dialogue national inclusif qui a eu lieu en 2019 avant la transition. Donc je crois sincèrement que c'est pour mettre en œuvre les recommandations du dialogue national que les autorités de la transition ont décidé justement de poursuivre ce dialogue-là. Puisqu'il faut le dire, le dialogue avait déjà été amorcé bien avant eux. Donc ils veulent justement poursuivre pour qu'il y ait la paix et la quiétude au Mali.
Qu'est-ce qu'on peut négocier avec les djihadistes comme Yad Ali et Amadou Koufa?
Avec Yad Ali et Amadou Koufa, c'est tout le long parce que ces deux djihadistes sont des Maliens. Donc, les autorités ont jugé nécessaire. À partir du moment où ils sont des Maliens, qui sont à rupture de bas avec la société, donc il est plus facile en tout cas de négocier avec un compatriote que de négocier avec d'autres. Donc, c'est ce qui a surtout motivé les autorités à aller vers ces deux-là. Yad Agali et Amadou Koufa sont déjà prêts apparemment de négocier avec les autorités puisqu'ils sont des Maliens.
Et en échange, qu'est-ce que le Mali gagnerait?
Oui, mais le Mali gagnerait la paix parce que rien ne vaut la paix. Et comme on le dit, la paix n'a pas de prix. C'est-à-dire que si nous continuons à suivre d'autres, en tout cas, et je crains fort que la situation ne va pas s'aliser davantage. Donc le mieux serait justement ceux qui sont prêts à négocier avec le Mali, que ceux-ci négocient avec le Mali pour que nous puissions retrouver la paix. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, on ne peut rien vraiment envisager dans un pays. Donc je crois que ce que le Mali gagne, c'est surtout la paix.
Est-ce que le Mali va sacrifier sa propre laïcité?
C'est la question que tout le monde se pose, parce que les djihadistes vont négocier peut-être en situation de force. C'est-à-dire le rapport de force est à leur faveur. Donc en ce moment, est-ce que le Mali ne va pas céder beaucoup de choses? Mais je crois sincèrement que ça va être très difficile que le Mali puisse rompre totalement avec la laïcité. Parce qu'en rompant avec la laïcité, on risque en tout cas d'être un pays isolé, carrément isolé. Nous avons vu en Afghanistan ce que ça a donné, nous avons vu ailleurs ce que ça a vraiment donné. Donc je crois que l'État va faire beaucoup de concessions. Mais de là à peut-être penser qu'on va rompre avec la laïcité, je ne crois pas tellement. Les concessions, c'est que d'abord, nous sommes un pays fondamentalement musulman. Parce qu'on est 95% des musulmans. Donc il y a peut-être un certain nombre de règles que les djihadistes veulent justement que l'État accepte. Peut-être à la limite, on peut accepter ces choses-là. Mais de là à peut-être penser qu'il faut rompre totalement avec la laïcité, je ne crois pas. Maintenant, tout va dépendre en tout cas des interlocuteurs. Parce que si le Mali envoie des gens qui sont quand même capables de bien négocier avec ces djihadistes-là, je crois qu'ils feront eux aussi des concessions, comme nous aussi nous allons faire des concessions, pour être au juste milieu.
Youssouf Sissoko, directeur de publication du journal Info 7 à Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
En Guinée, des proches de 70 personnes exécutées sous le régime de Sékou Touré ont demandé hier au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, l'habitation et une sépulture digne pour les victimes à l'occasion du 50e anniversaire du massacre du 18 octobre 1971. Une cérémonie a réuni environ 300 personnes sur le site de l'ex-camp Boiro, une prison dans la banlieue de Conakry où étaient enfermés les opposants à Sékou Touré. Yakuba Ouedraogo a joint à Conakry Abdoulaye Konté, président de l'association des victimes du camp Boiro.
Ce souvenir très douloureux, parce que là, en tant que fils d'une victime, mon père a été victime, donc ce souvenir est douloureux, très douloureux. Je vois mon père qu'on jette dans une gifle, à nuit noire, à 3h du matin, qu'on conduit au camp Boiro, on nous fait tenir des tableaux, des sujets qu'il ne connaît pas, et l'aboutissement de cela, que le 25 janvier 1971, donc vous voyez, c'est des événements, c'est des détails qu'il ne peut pas citer.
Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de justice. Après Sékou Touré, il y a eu Lassana Conté, il y a eu Davis Camara, Sékou Ba Konaté, Alpha Condé et maintenant le colonel Mamadou Doumbouya pour la transition. Est-ce que vous avez espoir d'obtenir justice dans cette affaire?
Ah oui, On n'a jamais eu un espoir comme aujourd'hui. Le président Mamadi Doumbouya a posé des actes très forts. C'est comme ça que je me suis adressé à lui. Des actes symboliques, de portée historique. Se rendre à Bamako, là où gisent à peu près 300 victimes, aller prier pour nous, musulmans, en Guinée, de portée historique. Se rendre hier au Cameroun. C'est la première fois que cela se fait dans ce pays. On n'a jamais eu un homme qui est venu se réveiller sur les forces communes et Cameroun. Donc, espoir, oui. Jusqu'à présent, le président Mamadi Doumbouya, quand il dit que la justice sera sa boussole, eh bien, il commence bien et nous y croyons.
Qu'est-ce que vous attendez concrètement du président de la transition Mamadou Doumbouya et de son équipe dans cette affaire du Cambouarou?
Après des tortures pour les faire cracher des aveux, je dis une fois de plus, sur des sujets que eux-mêmes ne comprennent pas, vous avez des gens que vous avez tués, vous avez exécutés de manière froide et sans justice. Il faut réhabiliter. Et puis c'est des illustres personnalités dont on parle. Des gens qui ont occupé des positions stratégiques dans ce pays. Ils ont été massacrés purement et simplement.
Quand vous dites qu'il faut réhabiliter, qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent ou quoi?
Non. Condamner des gens à mort, ça qu'il faut réhabiliter. Il faut dire que ces personnes sont des personnes d'honneur. Des personnes là qui sont entassées dans des choses communes de leur place.
Abdoulaye Konté, président de l'association des victimes du Cambouarou, joint à Conakry.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Gabon, 300 000 ménages sont visés par un méga projet d'adduction d'eau potable à Libreville et ses environs. Le chantier est prévu pour durer environ 14 mois. Pour rappel, le pays accuse un important déficit pour satisfaire les besoins essentiels des Gabonais. Il est prévu dans l'urgence la construction d'une infrastructure hydraulique avec un réservoir de 1500 m3. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangenze.
Le Gabon dispose d'un potentiel considérable de ressources en eau estimées à 170 milliards de mètres cubes par an. Pourtant, à une trentaine de kilomètres de Libreville, les quartiers entiers sont encore frappés par de récurrentes pénuries d'eau. Raphaël Nkorumba, notable de la commune de Ntoum.
Il faut comprendre que Ntoum qui dessert Libreville en eau potable n'est pas un château d'eau ou qu'il y a encore des quartiers où on n'est pas suffisamment d'eau. Même si ça vient un peu tard, mais il vaut mieux tard que jamais. Donc vraiment, nous n'attendons plus que ça se réalise et qu'en fait, parce que nous voulons des actes.
Il est permis de rêver le jour où tous les habitants du Grand Libreville auront de l'eau au robinet, en quantité suffisante et à un prix abordable. Les populations, notamment les femmes, n'attendront plus pendant des heures, la nuit, pour s'approvisionner. C'est la Banque africaine de développement qui finance ce méga-projet à hauteur de 114,5 millions d'euros, soit 75 milliards de francs CFA. Il a pour objectif de construire 300 km de réseau d'eau potable avec un suivi des travaux garantis. Robert Machouboko, représentant résident de la BAD au Gabon.
Il y a des compagnies qui vont faire le suivi des travaux, surveiller. Il y aura des différentes étapes de remise et de suivi. Donc nous avons toute confiance, d'autant que la société qui a été recrutée sur base d'un appel d'offres international pour s'assurer que le Gabon avait la meilleure compagnie pour ce travail au moindre coût.
D'après le gouvernement, la desserte en eau potable à Libreville et ses environs a connu une forte dégradation ces 20 dernières années à cause d'une absence notoire d'investissement. Il entend redresser ses propres torts. Alain-Claude Bilibizé, ministre gabonais de l'énergie et des ressources hydrauliques.
Ce sont là les travaux très importants qui vont aider à améliorer le quotidien des populations. Et lorsqu'on améliore le quotidien en matière d'eau potable, on lutte aussi contre un certain nombre de maladies qui sont liées à la mauvaise qualité de l'eau. On améliore également l'offre en ce qui concerne les ménages, les commerces et les industries. Donc ces travaux qui continuent se font également dans d'autres villes du Grand Libreville, à Ovendo, à Libreville et à Atanda.
Selon les chiffres officiels, moins de 55% de Gabonais ont accès à l'eau potable en milieu urbain. Dans les zones rurales du pays, le taux d'accès à ce service de base est encore plus faible, soit moins de 40% de la population. Libreville, Ismaël Obionzé pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Mali entre défis sécuritaires et possible prolongation de la transition.
Devant la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, le premier ministre de transition, Choguel Maïga, a accusé la France d'abandonner le Mali en plein vol, sans confirmer ou nier un quelconque accord avec le groupe russe Wagner. Il a aussi évoqué un possible report des élections prévues en février 2022. Comment analyser l'approche sécuritaire des autorités de Bamako? Que risque le Mali avec une transition prolongée? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et VOAAfrique.com.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan est en tournée africaine après l'Angola. Il est attendu aujourd'hui à Lomé, au Togo. La Turquie entend promouvoir des relations avec les pays africains sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant. Gini Niwa Kapumbu s'est entretenu avec l'économiste sénégalais Demba Moussa Dembélé.
Alors, il faut placer ce partenariat entre la Turquie et l'Afrique dans le cadre des échanges sud-sud, puisque la Turquie, malgré quand même son nouveau développement, est perçu en Afrique comme un pays du Sud, peut-être de niveau assez avancé, mais quand même comme un pays du Sud, et surtout un pays qui respecte les régimes en place, qui ne donne pas de leçons comme le font les pays occidentaux, et qui essaie donc d'établir des relations, si vous voulez, plus équilibrées. Et c'est dans ce sens qu'on parle de partenariat gagnant-gagnant, dans la mesure où la Turquie dit proposer des produits ou des services qui sont moins chers que ceux proposés par d'autres pays, et surtout aussi de qualité appréciable. Et c'est dans ce sens que la Turquie parle de partenariat gagnant-gagnant.
Très bien, l'économie semble être la plus grande facette du partenariat, mais il comporte également un volet sécuritaire. Pourquoi selon vous?
Vous savez, le volet sécuritaire, de toute façon, ne peut pas être. Ça passe d'abord la Turquie est perçue par-delà son niveau économique comme une puissance militaire. C'est indéniable. Et qui est capable d'aider ou de prêter main forte à certains pays. On a vu, par exemple, en Libye, la Turquie avait envoyé ses militaires pour aider le gouvernement qui était reconnu par la communauté internationale. Et je crois que ça a contribué à un peu apaiser la situation. Et d'un autre côté, la Turquie fabrique des armes dont les Africains pourraient avoir besoin dans la lutte contre le terrorisme. La Turquie a une expérience de lutte contre le terrorisme elle-même. Elle peut aider les pays africains en les conseillant dans cette lutte. Et comme la plupart de nos pays sont en but à des attaques terroristes, notamment au Sahel, là où je me trouve, au Sénégal, et il va aller au Nigeria, par exemple, qui est en but à la lutte contre le Boko Haram depuis plusieurs années, et qui aurait besoin, par exemple, d'armes qui sont beaucoup moins chères que celles que vendraient les États-Unis ou les Européens, qui viendraient avec, par exemple, le conditionnalité, alors que la Turquie n'attachera aucune conditionnalité à la vente de ces armes. Et j'aurais appris même, je ne sais pas si c'est confirmé de votre part ou pas, qu'il y a des drones de la Turquie qui ont été envoyés en Éthiopie et qui viennent dans sa guerre contre la province du Tigré. Donc, ce sont des choses comme ça qui font que, bien sûr, la Turquie a été bien perçue par les régimes en place en Afrique.
L'économiste sénégalais Demba Moussa Dembélé. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
aujourd'hui, diffusée partout en Afrique francophone. À Bangui, sur 101.7 FM. Clédou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Alfaïda FM, Kaolack, Sénégal. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui, sur VOA Afrique.